Salut, c'est Fury, le podcast de la Queer Week. Avec notre collectif, nous organisons un festival tous les ans, et dans l'absolu, nous ne sommes pas un collectif politique. Mais dans les faits, travailler et vivre ensemble, quand nous sommes des personnes aux identités si variées, c'est politique. Alors forcément, la question du rôle des alliés, elle se pose entre nous. Et il faut dire que par les temps qui courent, elle se pose partout. Quand nos sœurs trans, nos sœurs voilées, nos amis travailleurs et travailleuses du sexe, nos adelphes, se font agresser par une, entre guillemets, féministe, blanche, universaliste, dont je n'ai pas envie de prononcer le nom ici, moi, en tant que femme cisgenre racisée, je me questionne. Comment est-ce que j'interviens quand on légitime la violence? Quand on déshumanise mes proches? Quand on refuse de compter mes sœurs parmi les mortes? Une story Insta alors que je n'ai que 200 followers, est-ce vraiment suffisant? Quand on n'est pas une personne avec une grande visibilité, comment est-ce qu'on agit concrètement pour soutenir les personnes dont on s'estime être l'allié des luttes? Et comment on évite l'utilisation de ce rôle d'allié, comme bouclier, face à la déconstruction de ses propres privilèges? Dans la suite et la fin de notre entretien, ce sont ces questions que nous avons abordées avec Françoise Vergès. Nous y avons parlé de blanchité, de colonialisme et d'amitié. Bonne écoute. On va passer à la deuxième partie de notre entretien, donc on va interroger la question de l'allié, du rôle d'allié dans nos luttes politiques. Puisque nous, à la Queer Week, on est des personnes très différentes. On est des personnes trans, non-binaires, racisées. Et on vit ensemble, on communique, on travaille, on échange beaucoup, sans pour autant être tous et toutes trans, non-binaires, racisées ou valides. Et du coup, la posture de l'allié, c'est une posture qui nous interpelle beaucoup, particulièrement parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus critiqué dans les réseaux militants. Je pense particulièrement à l'ouvrage de Fania Noël Thomassin, Afro-communautaire appartenir à nous-mêmes, qui est paru aux éditions Sileps cette année. Et en fait, elle fait une critique du rôle d'allié. Elle critique en fait le fait que le rôle d'allié soit seulement réduit à un rôle de représentation et que concrètement, ça ne change rien aux rapports sociaux actuels de domination, etc. Et aussi, et surtout, que ça remet au centre du récit des personnes qui font partie du groupe des dominants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette critique-là?
On peut l'entendre, mais je pense... Ah ben alors, il y aurait plusieurs choses que je voudrais dire. D'une part, les alliés, il ne me semble pas que les alliés, ce soit simplement les blancs et les non-blancs.
Oui, tout à fait, ça peut aussi
déjà,
être...
Déjà, ça veut dire avec des tas de personnes qui ne sont pas nous, qui ne sont pas moi. De toute façon, l'alliance, c'est se mettre ensemble à partir de très grandes différences. Enfin, ou de très grandes ou de différences. On n'est jamais exactement comme l'autre. Donc déjà, je pense qu'il faudrait penser... Alors, est-ce que la question, c'est l'alliance entre blancs et non-blancs? Parce que bon, les personnes qui seraient dans une position dominante seraient les blancs et les autres non. Et à ce moment-là, ben, il faut questionner, je pense, en fait, effectivement, qu'est-ce que c'est que la blanchité? Que pour moi, blanc, c'est une, comme pour paraphraser James Baldwin, c'est une position morale. Ce n'est pas une position simplement de couleur de peau, c'est vraiment une position morale. C'est-à-dire de s'être glissé naturellement dans les avantages et les privilèges que cela donne, sans se poser de questions. Ou de prendre, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, je me sens coupable. Comme disait Audrey Lorde, la culpabilité, on n'en a rien à faire, ça ne nous sert à rien. Donc la question de vraiment de questionner radicalement aujourd'hui la blanchité, oui, ou tout blanchiment, et ou blanchiment, processus de blanchiment, puisqu'on a ça aussi. Ça, absolument, oui. Effectivement, que du coup... Parce que ce que je comprends, ce que Fania Noël dit, c'est que quand la question est posée de telle sorte que, de nouveau, ce sont les personnes en position de domination qui sont, qui deviennent les personnes importantes et intéressantes du débat, oui. C'est pourquoi ça. Vous ne voulez pas nous laisser rentrer? Non, la question, ce n'est pas ça. Ce serait plutôt, qu'est-ce que vous nous apportez? Vous venez pour faire quoi? Quand la question est posée à « Est-ce que vous nous acceptez? On voudrait venir avec vous ?» Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a strictement aucun intérêt.
Ce rôle d'allié dont on parle et dont elle parle dans son livre, c'est vraiment ce rôle des personnes qui se disent alliées d'une cause et donc représentants de cette cause dans le groupe social des dominants
Par exemple, on veut parler des Blancs qui se considèrent antiracistes et vont donc défendre la...
Mais dans ce cas, oui, bien sûr. Dans ce cas, oui. Mais je... bien sûr, là on est dans une... dans une réponse à une question très précise, du coup, pas simplement à la question des alliances. Qu'est-ce que ça représente, les alliances? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des alliés? Ça, c'est autre chose. Là, dans la situation que Fania Noël explique, absolument, oui, bien sûr. Parce que ça donne toujours au même le rôle le plus important, le plus intéressant. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, ça, effectivement. Ça, on peut tout à fait dire dans ce cas... ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas une alliance qui nous intéresse. Parce que c'est une alliance qui vous met encore au centre. C'est une alliance encore qui fait qu'on va passer 3 heures à discuter de vous et de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez le faire. Et que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a déjà tellement à faire. Donc là, oui, à ce niveau, oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je pensais qu'il y avait... C'était une question plutôt sur qu'est-ce que ça veut dire des alliances aujourd'hui, avec qui, comment...
Du coup, c'était la question suivante, en fait. Pour vous, comment est-ce qu'on pourrait être allié? Parce qu'on en a peut-être besoin, quand même, de ces alliances.
Mais de toute façon, je pense que les alliances, c'est dès le départ, dès qu'on se constitue comme un groupe. C'est rare qu'un groupe reste tout seul dans son coin. Enfin, moi, si vous voulez, puisque je me suis toujours intéressée au mouvement d'émancipation et de libération, tous les groupes ont cherché... avoir des alliés au-delà de leur propre de la constitution de leur propre force. Même la révolution haïtienne a cherché à avoir des alliés. Quand on parle des esclaves et qu'on dit les esclaves, mais ils cherchaient des alliés aussi, je veux dire, par exemple, c'est-à-dire des alliés avec des esclaves d'une autre plantation, avec entre eux-mêmes. Donc de toute façon, c'est toujours comment je constitue une solidarité. Comment je constitue de la solidarité? Comment je constitue une contre-force? L'unité, comme on dit, fait la force. Donc, comment je vais construire cela? Donc, ça veut dire que je vais être obligée de travailler avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des amis. Parce que si c'est que mes amis, on m'appelle beaucoup. Enfin, si, on peut être, mais enfin, quand même pas tellement. Donc, ça veut dire que je vais travailler avec des personnes qui ne sont pas nécessairement justement des amis et qui ne sont pas nécessairement appelées à devenir des amis. Mais qui sont justement là des personnes avec qui je vais faire quelque chose, à un moment donné. Et dans ce que je vais faire avec ces personnes, on va être ensemble. Mais proches, en totale solidarité. Quand on aura atteint cet objectif, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut être encore ensemble ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et que finalement, eh bien, quand on aura atteint cet objectif, je me rends compte que finalement, c'est plutôt avec ce groupe-là que j'ai envie d'être. Ou avec un autre groupe, parce que de nouvelles contradictions sont apparues, ou de nouveaux conflits. Et donc, je ne suis pas dans un... Je ne rentre pas au couvent, là. Je ne rentre pas dans un ordre auquel je dois rester fidèle toute ma vie. J'entre dans des stratégies, j'entre dans des structures. Et elles doivent, pour moi, répondre à des objectifs politiques. Et pas simplement le fait qu'on s'entende bien ensemble. S'entendre bien ensemble, c'est une bande d'amis. Et ça peut être formidable, et c'est absolument formidable. Ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement envie de faire des choses ensemble. Donc la question, pour moi, de l'Alliance, je comprends qu'elle a été posée en France de cette manière, parce qu'il y a eu en France une tendance, que d'ailleurs très tôt a été dénoncée, de penser l'Alliance en termes de, finalement, d'asymétrie. En fait, ce que Aimé Césaire, quand il disait aux communistes français, voulait bien la fraternité tant que vous êtes les grands frères. Bon, donc là, non, ça ne va pas, quoi, parce que frère, c'est frère. Quoi. Enfin, dans cette fraternité politique, ça veut dire qu'on est à égalité. Et il y a une très forte tendance. La gauche, l'extrême gauche, le féministe français ne se sont jamais vraiment profondément décolonisés. Ne se sont jamais posé vraiment la question de leur position. Et ont eu toujours tendance à donner des leçons aux autres, à tout le monde, aux esclaves, aux colonisés, tout ça, ou aux immigrés, aux femmes, aux gays, enfin, aux queers, à tout le monde, quoi. Ils ont une tendance à penser qu'ils savent, ou qu'elles savent, ce qui est bon pour les autres. C'est quelque chose de très colonial. Les Américains l'ont aussi. Je veux dire, c'est très lié à une pratique et une idéologie coloniale et impérialiste, quoi. même un colonial humanitaire. C'est-à-dire que en fait, on est pour une colonisation douce. On n'est pas pour qu'on massacre les gens, mais enfin, on pense qu'on sait quand même mieux que ces personnes ce qui est bon pour elles. Donc, on va aller leur construire, soi-disant, des hôpitaux, des routes et des ponts qu'on ne fait jamais d'ailleurs, que la France ne fait jamais vraiment. Mais enfin, on prétend cela. Et c'est cette relation qui est problématique. Je l'ai dit, on peut être tout à fait. Il y a eu des féministes anti-esclavagistes et racistes. C'est-à-dire contre l'esclavage, mais de ne pas complètement penser que les femmes noires étaient leur égales quand même. Faut quand même pas. Ou on a pu être anticolonialiste et raciste, c'est-à-dire contre le colonialisme, parce qu'on trouvait que ça n'allait pas. Mais ça ne voulait pas dire que ces personnes allaient devenir les égales des Françaises et des Français. Donc. En France, il y a un énorme problème. Et tant que la gauche, l'extrême gauche, le monde féministe, gay, blanchi, pas seulement mais blanchi, ne sera pas décolonisé, c'est-à-dire son propre processus de décolonisation, et qui va être vraiment très dur, qui va être très très violent pour eux et pour elles, parce qu'elles et ils n'ont absolument pas conscience de ce qui leur est rentré dans la tête. Et là, je pense qu'on pourra parler en totale égalité d'alliance. Et que pour l'instant, ça va être vrai, vraiment, effectivement, en disant « Mais non, on ne veut pas de ça. Nous, on ne voulait pas de ça. Ce n'est pas une alliance que vous nous proposez. C'est un fraternalisme, pour prendre le mot de Césaire, ou un maternalisme. » Je pense que la question profonde, c'est la question de la décolonisation des pratiques ou des idéologies émancipatrices en France, c'est-à-dire qui ne peuvent pas imaginer, parce que comme elles se présentent quand même émancipatrices et libératrices, ne peuvent pas imaginer qu'elles contiennent du racisme, du sexisme, du phallocentrisme, du patriarcalisme. N'arrivent pas à s'imaginer. Et c'est ça le plus que l'on doit, enfin que nous racisés, queer, enfin, je veux dire, des personnes qui veulent plus de justice, plus de dignité, plus de liberté, je pense, sur quoi on doit insister. Et donc, je pense que là, oui, donc de pointer la manière d'être, l'innocence avec laquelle se déclare ce désir d'aider, mais d'où vous sortez cette innocence? D'où vous sortez cette ignorance? Mais comment ça peut se faire? À Barcelone, où j'étais, il y avait une exposition sur les féminismes. Alors, il y avait d'une part, c'était l'avant-garde des années 70, c'était présenté l'avant-garde féministe des années 70, comme si c'était, bon, voilà, pour le monde entier. Et de l'autre côté, il y avait Geography and Gender. Là, c'était plutôt des féministes d'Amérique centrale et du Sud. Mais l'avant-garde féministe des années 70, à part deux ou trois féministes racisées, était incroyablement eurocentrée, incroyablement blanc. Il y avait un truc assez intéressant d'ailleurs, parce qu'à l'époque, un des procédés, c'était de la femme qui va se déguiser dans les figures imposées de la féminité. Donc la femme à la maison, la cadre, il y avait même la lesbienne, tout ça, etc. À aucun moment, il n'y avait une femme ouvrière, déjà, même blanche. Apparemment, il n'y avait pas d'ouvrière à l'époque. Apparemment, ce n'était pas l'idée que ces femmes pouvaient... justement, de l'image, vous voyez. Il y avait... quand c'était la travailleuse du sexe, en général, c'était le style appartenant à la grande littérature de la prostitution, pour parler ainsi, quoi. Voilà. Mais c'était jamais... la question du travail, c'est une première chose. Et deux, apparemment, il n'y avait jamais de femmes racisées dans leur monde. Mais il n'y en avait pas. C'était stupéfiant d'eurocentrisme et de focalisation sur les questions des normes imposées par les magazines féminins, une grande obsession des magazines féminins, qui était effectivement incroyablement hégémonique, sur on nous demande de nous maquiller, on nous demande de nous habiller comme ça, on nous demande d'être la parfaite domestique et de repasser comme il faut. Mais comme de ne pas se rendre compte que c'était des postes qui étaient aussi occupés par des femmes racisées ou des femmes de classe populaire. C'était stupéfiant. C'était intéressant de voir à quel point c'était important dans les années 70, que ça a dominé, et à quel point c'était montré aujourd'hui sans aucune distance critique. Les bras m'en sont tombés. Du côté géographe gender, où c'était des femmes de, surtout d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, on voyait tout de suite la question des sexualités, je dis des justement des sexualités, des peuples autochtones, des questions de racisation qui arrivaient tout de suite. Je veux dire, c'était là. Alors vous me direz, oui, mais parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Non, je ne pense pas. C'est pas ça. Je pense que vraiment, l'espèce de d'auto-centrisme, comme ça, d'espèce de narcissisme absolu, est en fait lié à l'idée que l'Europe aurait tout inventé, aurait tout, et que c'est ça qu'il faut remettre en cause, et qu'en 2019, on a à peine commencé.
Et ça, c'est une jolie conclusion aussi. Avant notre dernière question, assez rapide, qu'on pose aussi à tout le monde. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles pour terminer, pour aller un peu plus loin dans ces réflexions ?
Comme quoi ?
Je ne sais pas, des livres que vous voudriez conseiller autour de ces sujets, des films, des expositions, je ne sais pas.
Alors, parce que quand on me pose cette question, tout d'un coup, mon cerveau, il y a un vide. Ce que je peux dire, c'est que je défends absolument la curiosité. C'est-à-dire de se demander toujours, mais comment c'est fait ça ? Mais pourquoi c'est comme ça ? Puisque nous vivons dans un monde qui n'est pas naturel au sens où il a été fabriqué par des êtres humains. Hein, donc rien n'est donné. Quand parfois j'arrive dans des salles pour rencontrer des personnes, je leur fais toujours remarquer que la salle est organisée de telle manière que ça impose tout de suite une hiérarchie. Et que très souvent, c'est une hiérarchie de genre, de race, de classe. Quoi. Que les personnes n'osent pas se mettre au premier rang parce que certaines personnes n'osent pas, d'autres. Pourquoi ? Qui ose, qui n'ose pas, qui se met comme ça ? Et d'une part, et d'autre part, par exemple, moi je refuse très souvent d'être assise parce que ça fait tout de suite l'école, quoi, assise derrière le bureau, tout ça. Et que déjà, donc, ça met une relation entre moi et le public qui est tout de suite asymétrique, quoi. Alors évidemment, si je donne une conférence, je ne vais pas faire semblant de ne pas la donner. Mais comment je peux déjà amoindrir ces formes de pouvoir qui s'installent tout de suite et dans lequel les gens se glissent. Nous glissons presque sans y penser. Donc comment casser ça ? Comment faire remarquer chaque fois par exemple, puisque moi, je veux toujours faire remarquer que les endroits où on rentre sont nettoyés, ils sont nettoyés par des femmes et par des femmes racisées. Si je rentre dans un amphithéâtre, je le fais remarquer aux étudiants et aux étudiantes. Je veux qu'on prenne conscience de la matérialité des choses, du monde qui nous entoure. Donc c'est ça que je recommanderais, de chaque fois se poser, mais pourquoi c'est fait comme ça ? Ce n'est pas naturel, parce que beaucoup de choses sont naturalisées. L'oppression, l'exploitation, la queerphobie, l'homophobie, c'est naturalisé. C'est le racisme, le mépris de classe. Et donc, comment dénaturaliser ça constamment ? Je me souviens, quand je m'occupais d'un projet à l'île de la Réunion, j'avais demandé à des femmes dans un quartier populaire, mais vraiment des femmes très, très, très pauvres, ce qui était le plus pénible pour elles tous les jours, enfin dans leur vie. Et elles m'ont répondu le manque de respect. Et donc, c'est quelque chose, si vous voulez, c'était pas le prix du pain ou je sais pas quoi. C'était à La Réunion, donc ça n'aurait pas été le prix du pain, mais le prix du bus ou je sais pas quoi, dont elles ont parlé, c'était le manque de respect. C'est-à-dire que partout où elles allaient, à la sécurité sociale, à la mairie, dans n'importe quel bureau, où elles allaient rencontrer les enseignants de leurs enfants, on leur manquait de respect. Et ça, pour moi, c'est de faire attention à ces choses-là. Et pourquoi des personnes peuvent penser qu'elles peuvent manquer de respect à ces femmes ? Sur quoi ça s'appuie ? Et que ça ne les embête pas, ça ne va pas les empêcher de dormir. Du tout, du tout, du tout. Ça ne va pas leur faire honte. Tu sais, elles peuvent se le permettre. Et ça, non. Il faut qu'on le questionne. Qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Est-ce que je fais attention aux autres autour de moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens se comportent ainsi ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle hostilité, une telle brutalité dans les relations ? C'est normal ? C'est la nature humaine, comme on nous raconte ? où c'est fabriqué de telle façon qu'on est effectivement fatigué, exaspéré, énervé, et que du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? On le reporte sur la personne proche de soi ou dans la vie sociale. C'est ça ma recommandation, c'est d'être d'une curiosité insatiable. L'autre recommandation, c'est d'aimer la vie, parce que c'est quand même bien, et de vraiment de préserver l'amitié. De préserver l'amitié. Et la dernière chose, c'est que souvent, quand on est énervé par quelque chose, de se demander vraiment si ça vaut la peine. De sortir, de regarder les arbres, le ciel, et puis de se dire que finalement, il ne faut pas trop se faire du mal. Il faut essayer de se préserver. Voilà. Donc, ce n'est pas une réponse très précise. Mais...
Non, mais c'est vrai que c'est important. Merci Françoise Vergès.
Merci, merci d'être venue.
Merci d'avoir voulu parler à notre micro.
Merci de d'avoir voulu me poser des questions.
Cet entretien avec Françoise Vergès est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dans l'épisode de la semaine prochaine, nous parlerons de cul, parce que de ça aussi nous avons besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez en retrouver une retranscription écrite dans la description ainsi que toutes les références citées. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. Sur nos réseaux, on lit vraiment tous vos messages, @queerweek sur Facebook et Instagram. À bientôt!